Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?», en partenariat avec la revue Politique et Parlementaire. Et aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à un sujet qui est un sujet récurrent dans la littérature française, c'est le déclin de la France et le déclin des nations, mythe ou réalité. Et j'ai le plaisir d'accueillir dans la première partie de l'émission Stéphane Rosès. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politologue, président de la société de conseil CAP, également essayiste, et vous venez de sortir un ouvrage qui s'appelle Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, entretien avec Arnaud Benedetti, que nous connaissons bien, qui est rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, aux éditions du Cerf, et qui se traite en partie, ou en tout cas qui cherche à expliquer les raisons, les causes du déclin de notre pays. La première question que j'ai envie de vous poser, Stéphane Rosès, c'est vous considérez que la France est en dépression. J'ai envie de vous dire... Qu'est-ce qui vous fait dire ça finalement? Qu'est-ce qui vous fait écrire cela?
D'abord, très prosaïquement, ce qu'on dit, c'est les Français eux-mêmes. Dans les sondages internationaux, les Français sont les plus pessimistes au monde, avec un ou deux pays économiquement très en difficulté dans ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde. Donc c'est d'abord une perception subjective. Et puis ces toutes dernières années, par ailleurs, alors qu'il y avait auparavant un contraste phénoménal entre les conditions de vie des Français encore avantageuses par rapport, y compris à la situation des Allemands, des Anglais, a fortiori des Européens du Sud, il y avait déjà un très fort contraste qui interrogeait sur les raisons de cette dépression, dont ma grille d'analyse est une grille culturelle et non pas économique et sociale. Et puis, notamment autour du moment de la pandémie, ces toutes dernières années, un affaissement objectif de la France dans tous les secteurs, pas seulement l'industrie, mais l'énergie, on était leader mondial, l'école, la recherche, même maintenant l'innovation. Donc je dirais, ce sont des données à la fois subjectives et maintenant objectives qui montrent que nous sommes dans l'œil du cyclone, du malaise de tous les peuples dans la globalisation néolibérale, mais nous, Européens, nous, Français, sommes plus affectés que les autres, justement parce que notre vision du monde, nos façons d'être et de faire sont les plus contradictoires avec la singularité de la globalisation néolibérale.
Alors, effectivement, ce qu'on aimerait savoir, c'est en quoi finalement la singularité du peuple français ferait-il de lui un peuple plus touché que d'autres, ou certains diraient plus en incapacité de s'adapter aux préceptes notamment de la globalisation que d'autres peuples en Europe ou dans le monde, parce que finalement on pourrait vous répondre que la mondialisation, l'évolution des normes, des règles culturelles, économiques et démocratiques, c'est pas quelque chose qui percute uniquement la France. Toutes les nations y sont confrontées.
Absolument, vous avez tout à fait raison. La globalisation néolibérale percute tous les peuples. Mais la singularité de la globalisation néolibérale par rapport aux précédentes mondialisations, il y a toujours eu des mondialisations, quelle est-elle? Auparavant, les différentes mondialisations, y compris depuis l'Empire romain ou même avant, étaient la résultante des différentes communautés humaines, de leur vision, de leurs intérêts, de leur désir d'expansion pour des raisons matérielles ou idéologiques, hein, de représentation. La nouveauté de la globalisation néolibérale à partir des années 70, mais plus clairement encore depuis la chute du mur de Berlin, c'est que cette globalisation économique, financière et numérique n'est plus la résultante des peuples. Et donc les peuples ne peuvent pas nommer, identifier, se révolter, avoir le sentiment qu'ils ont une prise sur le cours des choses, parce que cette globalisation néolibérale procède des marchés, de leur efficace et dorénavant d'institutions de gouvernance transnationale néolibérale dont l'Union européenne est le laboratoire le plus abouti. En un mot, ce qui décide du cours des choses semble échapper aux différentes communautés humaines, aux peuples, aux gouvernants politiques et semble s'imposer de facto. Alors les peuples en profitent un temps en termes de prospérité jusqu'au moment où cette dynamique qui leur échappe politiquement mais dont ils profitent semble remettre en cause la maîtrise de leur destin. Et c'est le moment actuel de chaos. Chaque peuple se replie et croit reprendre la main en s'affrontant aux autres plutôt qu'en se divisant en leur sein. Voilà la singularité de la globalisation néolibérale qui fait que la mondialisation ne ressemble pas au précédent. La singularité française procède de son imaginaire, de sa façon d'être et de faire. Depuis les Celtes, les Latins, les Germains, depuis l'occupation de l'Empire romain, le problème de la France pour s'assembler, c'est de réunir des peuples divers à l'intérieur de la France, dont parlait déjà le révolutionnaire de 89 Mirabeau. Alors, comment font les Français? Comment faisons-nous? Nous-mêmes peinons à le voir alors que nos amis étrangers le repèrent. C'est que nous pensons et nous voyons les choses par écart au réel, justement pour désingulariser nos origines. Et nous le faisons avec la centralité du politique. La France s'est constituée autour de l'État monarchiste. L'État a précédé la nation. Et donc, ce sont des disputes communes de nature politique qui vont faire qu'on est français. Le poète René Char disait « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». C'est-à-dire, nous avons un héritage, des façons d'être, des façons de faire, c'est notre imaginaire, mais nous n'avons pas de testament, c'est-à-dire, c'est pas dans le passé qu'on va définir ce qu'on a à faire ensemble, c'est en nous projetant au contraire dans le temps, au travers de l'idée de progrès et de raison, dans l'espace avec les croisades, les guerres napoléoniennes, la colonisation, l'Europe comme la France en grand, ou bien des projets ou incarnations politiques et la figure du souverain ou du président. Eh bien, le néolibéralisme a éteint ces trois moteurs de l'imaginaire français. Le capitalisme financier fait qu'on ne pense pas que demain sera meilleur. L'Europe néolibérale depuis 2005 fait que les Français ne croient plus que les institutions européennes, l'Union européenne et la France en grand, et l'État, dorénavant, son sommet se retourne contre la nation et donc nos souverains, nos dirigeants politiques ne sont plus l'incarnation d'un projet politique puisqu'ils disent au fond aux Français, non pas « nous allons construire l'avenir et voilà ce que nous allons en faire », mais « on doit s'adapter au présent ». On doit s'adapter à des règles et disciplines, sinon nous allons périr. Alors les Français disent oui avec la tête et non avec les tripes, et c'est pour ça que nous sommes les plus déprimés au monde, alors que notre situation est encore enviable et enviée.
Alors moi ça m'amène à deux questions. La première question c'est, vous dites, finalement la France est plus touchée que d'autres nations. Alors il faut parfois peut-être se comparer, par exemple, à nos voisins britanniques. et nos voisins britanniques, qui sont dans un modèle plutôt proche du monde anglo-saxon, semblent, on pourrait dire, qu'ils sont encore plus durement affectés que nous, puisque non seulement ça les a amenés à faire des choix en rupture, et notamment on pense au Brexit, donc à quitter l'Union européenne, et puis là on a une instabilité politique qui est assez époustouflante du point de vue des... Et on pourrait se dire, alors est-ce qu'en réalité, il n'y a pas d'autres pays, y compris des pays proches du modèle anglo-saxon, qui devraient peut-être être plus adaptables aux critères et aux dynamiques de la mondialisation? Et en fait, est-ce que la France, autrement dit, est-ce que la France, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne résiste pas mieux que d'autres pays? Et il suffit de traverser la Manche peut-être pour se comparer et se rassurer.
Non, la France ne résiste pas mieux. Les Français sont plus déprimés et dépressifs que des pays en situation plus difficile économiquement et socialement. Effectivement, vous avez raison, l'Angleterre, mais nul pays n'a un niveau, je dirais, de pessimisme aussi important et n'a vu son pays s'affaisser aussi rapidement au plan comparatif, si on se compare par exemple avec l'Allemagne et dans tous les secteurs. Alors pourquoi le même mécanisme, la globalisation néolibérale, touche la planète entière? Mais les Orientaux sont moins affectés que les Occidentaux, car l'imaginaire oriental ne vise pas à ce que l'homme soit comme maître et possesseur de la nature du cours des choses. L'homme doit être en harmonie avec le cours des choses. Et donc, le néolibéralisme qui dit au peuple « on ne construit plus l'avenir, il faut s'adapter au présent » est beaucoup plus en phase avec l'imaginaire oriental. L'imaginaire occidental, depuis Mare Nostrum, c'est l'idée que l'homme est en surplomb. Il maîtrise la nature, ce qui se passe, l'avenir. Et parmi les Européens, chaque peuple est quand même singulier. Et puis, les Américains sont plus adaptés que les Européens au cours des choses néolibérales. En un mot, pour répondre à votre question, oui, la globalisation touche les peuples de la même façon. L'Occident est plus affecté que l'Orient pour des raisons d'imaginaire. Et à l'intérieur de l'Occident, l'Europe est plus affectée que les États-Unis, également pour des raisons d'imaginaire. Et la France, cul-de-sac de l'Europe, depuis ses origines, a développé pour s'assembler un imaginaire absolument contradictoire. Arnaud Benedetti dit à juste titre, au fond, à vous écouter, la France est dans l'œil du cyclone du chaos qui s'installe aujourd'hui dans le monde. Regardez le résultat de la COP en Égypte. Alors que tous les pays sont confrontés à un immense défi, ils n'arrivent même pas à se mettre un minimum d'accord, alors que pouvait être relativement optimiste lors de la COP21. J'avais été nommé expert national pour la consultation planétaire sur la réaction des peuples à la lutte contre le changement climatique. Il y avait lors de la COP21 des espoirs de la possibilité que les peuples et nations s'entendent contre le changement climatique. Le repli des peuples fait que la situation s'est dégradée et semble valider ma thèse du fait que le repli des peuples nous amène au chaos.
Alors, il faut allier le pessimisme de la raison à l'optimisme de la volonté, écrivait Gramsci. Donnez-nous quand même peut-être des éléments d'optimisme, parce que vous le savez, la France est une nation millénaire, donc elle a connu des hauts et des bas, et parfois même des effondrements, comme en juin 1940. Et malgré tout, il y a de la résilience dans les peuples, et on le voit par rapport à ce qui se passe en Ukraine. Donc donnez-nous quand même, peut-être pour finir, c'est ma dernière question, quelques éléments de rebond, parce que on peut penser que la France ne va pas se regarder décliner sans réagir.
Il y a un génie français, nos amis étrangers le repèrent, les deux tiers des leaders économiques et d'opinion à l'étranger pensent que la France peut tirer positivement parti de la mondialisation, quand dans la même étude dont je me suis occupé, les deux tiers de nos leaders pensent qu'on ne peut pas, on va être victime de la mondialisation. Donc nous avons des atouts, des singularités, un génie, vous avez raison. Mais pour que ce génie fonctionne, il faut redevenir maître de notre destin. Car chez nous, la souveraineté nationale, le fait d'être maître de notre destin dans le monde est la condition de la souveraineté populaire, c'est-à-dire le bon fonctionnement de la République et le fait que nos enfants aient tous un avenir commun. Donc la solution pour nous en France et en Europe, c'est que les peuples reprennent la maîtrise de leur destin, fassent fructifier leur modèle et fassent ensuite des coopérations fortes entre elles. L'Europe, c'est le contraire.
Mais ça veut dire, pardon Stéphane Rosès, ça veut dire remettre en cause la construction européenne, l'Union européenne telle qu'elle est ?
Non, pas la construction européenne, la destruction européenne. Les institutions européennes sont l'inverse du génie européen. Quel est le génie européen depuis Mare Nostrum ? C'est de faire de la diversité de ces peuples du commun. Diversité culturelle à l'intérieur d'un espace. Les politiques de l'Union européenne aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est des disciplines uniques qui seraient censées rapprocher les peuples, mais il se passe l'inverse. Partout, le nationalisme monte. Donc, il ne faut pas être dans l'illusion, le romantisme français qui, à force de vouloir embrasser le monde, ne comprend pas ces modes de fonctionnement. Donc il faut respecter la singularité des peuples et ensuite faire comme un concert, un orchestre symphonique. C'est de la diversité que l'on crée le génie européen. L'Europe, vous avez parlé d'Ukraine, l'Europe ne décide même plus de ce qui se passe en Ukraine. Hein. C'est à Washington, Moscou et Pékin que tout se décide, peut-être un peu à Istanbul. Mais donc l'Europe, bon, le côté, ce qu'il faudrait faire pour éviter les guerres et le pire, c'est de redonner à chaque peuple la maîtrise de son destin, faire fructifier son modèle et avoir des politiques volontaires au plan européen pour développer la singularité européenne dans tous les domaines et défendre le modèle européen plutôt que de faire de l'Union européenne un vaste supermarché.
Très bien, Stéphane Rosès, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de la première partie de l'émission. On aura le plaisir de continuer à parler de ce sujet-là avec Arnaud Benedetti dans la deuxième partie de l'émission. Je rappelle que vous êtes président de la société de conseil CAP, également politologue, essayiste. Vous venez de sortir un ouvrage, Chaos, essai sur les imaginaires des peuples aux éditions du CERF, entretien avec Arnaud Benedetti. On a toujours plaisir à vous entendre, Stéphane Rosès, et merci encore d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, à bientôt.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?». Une émission en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et ça tombe bien puisqu'on a Arnaud Benedetti qui est le rédacteur en chef de la revue. Bonjour Arnaud.
Bonjour Alexis.
On a reçu Stéphane Rosès dans la première partie de l'émission qui a écrit un essai mais qui est aussi sous forme d'entretien hein, puisque vous êtes l'intervieweur. Chaos, essai sur les imaginaires des peuples aux éditions du CERF. Moi je voudrais qu'on évoque ce mouvement, ce courant de pensée qu'on pourrait appeler décliniste, en tout cas qui voit qu'il y a un pessimisme français, c'est vrai, mais qui considère que, eh bien, dans la période que nous vivons, la France est un déclin. Et les mots de Stéphane Rosès sont très forts. Hein. Il parle d'affaissement. de décrochage. Est-ce que comment vous percevez à l'aune des travaux de la revue et des différents experts intellectuels qui s'y associent en écrivant des articles, comment vous percevez ce mouvement qui voit aujourd'hui la période des transformations du monde à l'aune d'un déclin français?
Alors, c'est un mouvement qui, en tout cas, comme vous le dites, s'exprime régulièrement dans les colonnes des médias, dans un certain nombre d'ouvrages. C'est un mouvement qui se base sur un certain nombre de facteurs aussi, qui sont des facteurs, j'allais dire, quantifiables, hein, et objectifs, hein, qui montrent que il y a, en tout cas, un recul, hein, parfois, dans un certain nombre de domaines de l'influence française, voire du rayonnement français, notamment dans le domaine économique, avec la désindustrialisation, les délocalisations, également dans le domaine éducatif, quand on regarde par exemple les classements qui sont les classements PISA régulièrement publiés par l'OCDE, on voit que là aussi il y a parfois un décrochage sur un certain nombre de fondamentaux en termes d'apprentissage. Il y a une réalité qui s'est installée en tout cas dans la société française d'un déclin qui serait d'une certaine manière un processus soit irréversible et qu'on ne pourrait contrecarrer que par finalement notre capacité aujourd'hui à s'intégrer dans un bloc plus vaste qui est celui, pour aller très vite, de l'Union européenne. C'est un peu, disons, d'une certaine manière, la thèse qui est défendue aujourd'hui par le président de la République, avec notamment la notion de souveraineté partagée. Et puis il y a ceux qui considèrent que ce déclin est à combattre à travers des politiques publiques qui sont des politiques publiques plus souverainiste et qui permettrait de retrouver un certain nombre d'éléments constitutifs de notre autonomie stratégique. Après, l'arrêté, c'est de savoir quelle est, si vous voulez, la dimension subjective de la dimension objective. La dimension objective, je l'ai évoquée à travers un certain nombre de chiffres, enfin, un certain nombre de faits, hein, qui, là, sont peu contestables en l'occurrence. Mais est-ce que ce déclin, ou en tout cas cet affaiblissement, Rosès lui parle d'affaissement, c'est clair dans l'ouvrage où je l'ai interviewé, ou en tout cas cet affaiblissement peut-être pour nuancer, est-ce qu'il est propre finalement à la France ou est-ce que finalement c'est plutôt la traduction d'une évolution qui va au-delà de la France, c'est-à-dire qui toucherait un certain nombre de structures politiques, États-nations, notamment en Europe, qui n'ont plus les marges de manœuvre dont ils disposaient il y a encore 30 ans ou 40 ans, du fait notamment des processus de globalisation et de mondialisation. Ça, c'est la question qu'il faut en effet se poser.
Alors, c'est une des questions qu'on peut se poser. Avant de vous interroger là-dessus, sur la spécificité du modèle français et son affaissement ou bien son affaiblissement par rapport notamment à d'autres pays en Europe. C'était une des comparaisons qu'on a abordées avec Stéphane Rosès. Moi, je l'ai attiré sur ce terrain-là à travers ce qui se passait chez nos amis britanniques. Mais avant de répondre à cette question, il y a peut-être une première question, c'est que il y a eu beaucoup d'ouvrages, je pense notamment à un ouvrage un petit peu ancien, mais de Nicolas Bavrez qui s'appelait « La France qui tombe ». Et lui, qui a été écrit déjà il y a presque 15 ans, hein, donc ce n'est pas un ouvrage récent, mais il avait une approche, on va dire, par l'économique. Voilà. Et lui, il se focalisait sur les agrégats, les paramètres économiques, en disant la France, l'économie française, la désindustrialisation, et c'est ça qui est grave. Stéphane Rosès, c'est un peu différent. Lui, il est plutôt sur l'aspect culturel.
Je vous rejoins, c'est vrai, il est sur l'aspect culturel, mais il considère que, si vous voulez, il y a eu l'acculturation des élites dirigeantes de ce pays à un modèle qui est un modèle qu'il qualifie de néo-libéral ou que l'on peut qualifier de globalisant ou de globalisé. Et que finalement, l'acculturation des élites à ce modèle qui est une forme de capitalisme financier, techno-managérial qui s'impose à travers notamment les normes et un certain nombre de process est une reddition finalement de la singularité, de la spécificité française qui s'est construite à travers l'idée d'un centre politique, un État qui est un État qui est là pour construire des politiques publiques qui sont des politiques publiques au service de la nation et au service de la société. Et que c'est finalement la trahison d'une certaine manière pour aller très vite, des dirigeants qui expliqueraient aujourd'hui, et à travers leur acculturation à ce modèle-là, qui expliqueraient aujourd'hui le déclin français. Donc c'est quand même aussi chez Rosès, quand même, malgré tout, une approche par l'économique, même s'il dit de toute façon tout se tient, c'est-à-dire l'économique, le social, le culturel. Et de ce point de vue-là, il n'a pas tout à fait tort. Sociologiquement, quand on regarde, une société, elle ne tient pas que par un élément, elle tient par une articulation de différents éléments. Vous savez, je ne veux pas rentrer dans la théorisation sociologique, mais il y a un sociologue qui, il y a quelques années, qui était plutôt anthropologue, qui s'appelle Georges Balandier. Georges Balandier, il avait construit un modèle qui était un modèle très intéressant pour montrer quand une société dysfonctionne ou quand une société finalement fonctionne normalement, enfin normalement, si tant est qu'une société puisse fonctionner normalement, ce qui n'est pas démontré par
l'observation,
ce qui n'est pas évident. Mais en tout cas, là où elle dysfonctionne, c'est quand vous avez trois faits de structure. Il appelle ça trois faits de structure. L'effet de structure, qui sont l'économie, pour aller vite, ce que les marxistes appellent les infrastructures, lorsque l'effet de représentation, qui sont finalement les imaginaires dont parle Stéphane Rosès dans son ouvrage, et l'effet de fonctionnement, qui sont les institutions, quand ces trois, en d'autres termes, quand les institutions, les imaginaires et les infrastructures, notamment les infrastructures économiques, ne sont plus alignées les unes sur les autres. Et il nous dit, à partir de là, on rentre dans une situation qui est une situation que les sociologues connaissent bien, puisqu'ils l'ont décrite et théorisée, notamment Durkheim, qui s'appelle l'anomie. Aujourd'hui, la société française, quand même, est dans dans cette conjoncture-là, dans ce contexte-là. C'est-à-dire un contexte d'anomie où on voit que, finalement, les imaginaires, dont parle Rosès, l'économie, dont il parle également, et les institutions, ne paraissent plus, disons, fonctionner aujourd'hui d'un même pas, comme si elles étaient indépendantes les unes des autres.
Alors, on va aussi aller vers un des sujets qui, pour Stéphane Rosès, est un élément du déclassement ou de l'affaissement de la France, c'est la perte de la souveraineté nationale, politique, économique. Mais quand même, on peut interroger cette thèse au sens où le pays qui, en Europe, a fait le choix qui finalement est celui un petit peu prôné par Stéphane Rosès, c'est-à-dire de sortir du carcan de l'Union européenne pour recouvrer des marges de manœuvre, c'est l'Angleterre, c'est nos amis britanniques. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, que ce soit sur le plan économique, les indicateurs ne sont pas bons, l'Angleterre est en crise économique, la croissance est moindre que dans la plupart des autres pays européens, tant sur le plan politique, où il y a une instabilité qui est quand même relativement étonnante. Il y a un Premier ministre qui a tenu moins de 15 jours. On ne peut pas dire que pour l'instant, le modèle du retour à la souveraineté du politique, chez nos amis britanniques, ça donne des résultats particulièrement probants.
Oui, alors sauf que Stéphane Rosès ne prône pas forcément le modèle britannique. Hein. Il ne prône pas dans son ouvrage, il faut être clair, ce que d'aucuns appelleraient un Frexit. Hein, que là-dessus, je crois que c'est un sujet qui n'est pas en tout cas traité de la manière suivante dans l'ouvrage.
Non, mais je lui ai quand même posé la question et il est extrêmement critique vis-à-vis du fonctionnement de l'Union européenne, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, mais il n'a pas tort non plus sur le fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer que l'Union européenne telle qu'elle s'est construite depuis 1992 a finalement toujours répondu aux attentes qu'elle avait pu susciter lorsque, par exemple, les Français ont voté oui au traité de Maastricht en 1992. Je rappelle quand même que lorsqu'on a finalement défendu le traité de Maastricht en 1992, à droite comme à gauche, la grande, j'allais dire, promesse du traité de Maastricht, c'était de dire que ce traité allait permettre de mieux protéger et d'assurer la puissance des États membres constitutifs de l'Union européenne. La réalité, c'est que les peuples, à tort ou à raison, ont le sentiment aujourd'hui qu'ils n'ont pas été forcément mieux protégés que par le passé, et que finalement, la puissance politique ou la puissance aujourd'hui économique de l'Union européenne reste, en tout cas, pour une grande partie d'entre eux, une sorte de promesse ou de vœux pieux. Ce qui explique vraisemblablement d'ailleurs le fait que les Français en 2005 aient voté non au traité constitutionnel qui leur avait été proposé. Donc la réalité aujourd'hui qu'il existerait en tout cas une Union européenne qui fonctionne, disons, de manière pour le moins discutable, c'est une réalité qui s'est imposée en France et pas seulement qu'en France. Ce qui ne veut pas dire que le modèle britannique, en effet, que vous avez décrit, soit le modèle qui soit aujourd'hui, le modèle adapté pour résoudre des crises. Quoique, certes, la situation des Britanniques est difficile, mais elle est certainement moins difficile que ne l'avait prévu un certain nombre de Cassandre au moment où les Britanniques ont fait le choix du Brexit. On avait dit par exemple que la place financière de Londres allait s'effondrer, la place financière de Londres ne s'est pas effondrée. Donc il faut être relatif dans la critique que l'on peut faire des Britanniques. Par contre, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, il y a quand même un vrai sujet, c'est le sujet, je pense qu'il est le sujet essentiel sur le plan politique, c'est le sujet de la démocratisation des institutions européennes. Malheureusement, aujourd'hui, force est de constater qu'il y a un problème de démocratie au sein même de l'Union européenne, et la difficulté, c'est que, si vous voulez, le problème, c'est que comme il n'existe pas un peuple européen et qu'il existe des peuples européens, il est très difficile de constituer un espace public qui soit un espace public qui permette à une opinion publique de pouvoir émerger et de pouvoir faire émerger également un peuple européen. Quand vous n'avez pas de peuple, vous avez plus de difficultés, d'une certaine manière, à faire fonctionner des institutions sur un plan démocratique. Et ça, c'est un vrai sujet aujourd'hui qui se pose notamment pour les dirigeants européens et notamment pour les dirigeants des États-nations.
Vous avez raison, mais c'est vrai aussi qu'il faut reconnaître que l'Union européenne fait aussi l'apprentissage du pragmatisme, parce qu'il n'y a plus de grandes envolées lyriques sur le fédéralisme, comme on a pu avoir jusqu'au vote sur la Constitution européenne. Aujourd'hui, on est quand même revenu à ce que Jacques Delors avait appelé la fédération des États-nations, c'est-à-dire que même si on essaye de fonctionner dans le cadre de l'Union, on voit bien, et on le voit bien sur un certain nombre de débats sur l'énergie, bien que chaque peuple, chaque nation, chaque gouvernement défend aussi ses intérêts, parfois indépendamment ou même envers et contre l'Union européenne.
Vous avez raison, parce que je pense que ceux qui aujourd'hui poussent le plus loin dans une perspective qui est une perspective d'intégration, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce sont vraiment les Français. C'est-à-dire que les Français ont cette idée que, et ça, Stéphane Rosès le dit assez justement dans l'ouvrage et dans les entretiens que j'ai pu avoir avec lui, c'est que finalement l'Europe, c'est la France en plus grand. C'est-à-dire que nous projetons notre représentation mentale du pouvoir sur des institutions européennes dont la plupart des États membres ne souhaitent pas forcément qu'elles s'orientent vers ce modèle politique que nous appelons de nos voeux. Donc il y a comme une espèce de décalage entre la représentation que se font les Français, et notamment une partie des élites françaises, de l'usage que l'on peut faire de l'Union européenne et du modèle que l'on peut construire, et la réalité que nous renvoie un grand nombre de nos partenaires membres de l'Union européenne qui ne sont pas eux forcément favorables à cette évolution. Alors, par ailleurs, en effet, par contre, il existe au sein même des institutions de Bruxelles un certain nombre de décideurs, je pense notamment à Mme von der Leyen, qui eux quand même, malgré tout, aujourd'hui, dans les discours qu'elle peut tenir, dans les actes qu'elle veut poser, semble en tout cas s'orienter vers un modèle de fédéralisme qui ne dit pas son nom, mais qui est une forme de fédéralisme. Quand on veut remettre en cause, d'une certaine manière, le principe de l'unanimité, là, en l'occurrence, on voit bien que on essaye de franchir un cap supplémentaire dans une intégration qui est une intégration quand même d'essence plutôt fédéraliste. Est-ce que aujourd'hui les peuples sont favorables à cette évolution? On peut en douter, en tout cas pour un certain nombre d'entre eux.
Ça sera ma dernière question. J'ai quand même voulu demander à Stéphane Rosès si, malgré, je dirais, le pessimisme de la raison, si finalement, comme à d'autres moments de son histoire, même si on considère que la France est dans un creux, il n'y avait pas quand même des possibilités que par l'optimisme de la volonté, pour paraphraser Gramsci, on ressorte, renforcé, ou en tout cas qu'on surmonte ces difficultés comme à d'autres moments de notre histoire où finalement la France a été parfois battue, occupée, sortie de l'histoire, et puis elle est toujours là, elle est revenue et elle est encore là.
Oui, parce que la capacité de la France à rebondir historiquement a toujours été un élément moteur de sa dynamique propre. C'est pour ça que De Gaulle parlait de la France comme d'une personne, d'une certaine manière, qui tombe mais qui peut se relever. Je pense que la France a des atouts. Elle a plusieurs atouts. Premier atout, c'est sa géographie. Deuxième atout, c'est toujours sa géographie, mais sa géographie planétaire. Le fait qu'elle est présente pratiquement à tous les coins de la planète, à travers notamment ses territoires d'outre-mer. Elle a un troisième atout qui est considérable, c'est sa langue. Aujourd'hui, il faut bien prendre conscience que le français est la quatrième ou la cinquième langue parlée au monde et que la dynamique de développement de la francophonie, ne serait-ce que pour des raisons démographiques, est une dynamique positive. Donc la France a des atouts, le sait-elle, sait-elle les exploiter? Ça, c'est une autre question, manifestement, qui n'est peut-être pas posée dans l'ouvrage de Stéphane Rosès, en l'occurrence, mais que les politiques devraient et que les dirigeants devraient se poser.
Merci beaucoup Arnaud Benedetti. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, que vous avez interrogé Stéphane Rosès dans cet ouvrage « Chaos, essai sur les imaginaires des peuples » qui vient de paraître aux éditions du CERF. Et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on aura d'autres occasions, je pense, de vous interroger.
Merci à vous.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.